Dans ce nouvel épisode d'Historio Info, la découverte des vestiges d'une résidence de repos possiblement pour les troupes du pharaon Toutmosis III en Égypte, la découverte d'une pierre inscrite d'un ancien alphabet irlandais dans un jardin en Angleterre, des voleurs ont presque réussi à piller divers artefacts d'un site archéologique préhispanique au Pérou qui était inconnu des archéologues, des bains possiblement utilisés par Alexandre le Grand, mis au jour dans le palais d'Aigai en Grèce, trois bunkers de la Deuxième Guerre mondiale retrouvés presque intacts en Belgique, les Moaïs de l'île de Pâques affectés par les températures extrêmes des dernières années et la redécouverte d'un fragment de sarcophage de Ramsès II. Dans notre rubrique à la loupe, l'étonnant site d'Angkor au Cambodge. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historio Info. Et il arrive légèrement en retard, toutes mes excuses, parce que je suis enseignante au collégial à Québec et j'étais plongée dans la correction de fin de session le mois de mai, il faut le dire, est particulièrement chargée. Mais que ça me tienne, parce qu'il y a plusieurs nouvelles historiques et archéologiques qui ont retenu l'attention en mai, et comme il y a plusieurs chantiers de fouilles, entre autres en Europe et en Scandinavie, qui commencent à ce temps-ci de l'année, surtout pour le mois de juin, eh bien là, le prochain mois s'annonce aussi très, très intéressant. Mais voici donc la sélection pour mai, qui a pour objectif de faire un grand tour de la planète, et commençons sans hésiter. Alors, il y a certes toujours beaucoup de découvertes annoncées en Égypte. Presque à tous les mois, il y a quelque chose qui est annoncé, des fois plus important, des fois moins. Mais là, il y en a une qui a quand même retenu l'attention et qui s'est démarquée, je vous dirais, au mois de mai. Parce que des égyptologues qui fouillaient dans la région du Sinaï, sur un site qu'on appelle Tel Abwa, ont dégagé en fait les vestiges de ce qui semble avoir été une résidence. Et là, bon, quand ils ont recommencé à regarder un petit peu la position des bâtiments, parce qu'il y en a plusieurs, la forme, etc., bien là, ils ont établi que c'était quelque chose comme un lieu de repos de l'époque pharaonique. Donc, pas juste une caserne, mais bien un endroit où on se reposait, on mangeait, on prenait une pause avant un chemin peut-être plus long ou avant de faire des pratiques militaires ou quelque chose comme ça. Et donc, ils ont poursuivi les analyses et là, ils se sont dit, bon, la conclusion première, c'est que le bâtiment devait au minimum abriter des troupes militaires et possiblement un pharaon qui les accompagnait, parce qu'il y a quand même un côté un peu luxueux aussi à l'organisation et à la structure des bâtiments. Et ils ont daté le bâtiment de l'époque du Nouvel Empire, et plus précisément, selon les indices des objets, la vaisselle, les choses qu'ils ont trouvées sur le site, ils arrivent à peu près au règne du pharaon Toutmosis III. Ce qui aurait du sens, parce que de tels vestiges à cet endroit, sous son règne à lui, ben c'est logique, parce que Toutmosis III est reconnu pour ses stratégies militaires qui étaient plus offensives, en fait, pour mieux protéger son royaume. C'est lui qui a affronté divers souverains et des chefs de territoire le long du couloir syro-palestinien pendant son règne et qui a vraiment agrandi, en fait, le territoire du royaume d'Égypte. Il y a d'autres analyses qui sont, par contre, nécessaires pour établir l'hypothèse parce que, oups, là, il y a des artefacts qui ont été découverts sur le site qui semblent peut-être être postérieurs au règne de Toutmosis III, qui lui a été au pouvoir de 1479 à 1425 avant notre ère. Alors, ça reste particulièrement intéressant parce que si c'était vraiment une résidence de repos pour lui et ses troupes, mais peut-être qu'au gré des fouilles, on pourrait trouver des objets qui sont peut-être un petit peu plus personnalisés. Alors, c'est à suivre, évidemment. Et si on va maintenant en Angleterre, eh bien là, on va parler d'une découverte qui est quand même assez rare. Elle a été réalisée par un enseignant en géographie qui travaillait dans son jardin à Coventry. Et là, il a dégagé une pierre rectangulaire et là, whoop, à sa surprise, bien, elle était gravée de lignes de différentes profondeurs qui ressemblaient à des symboles ou même il s'en doutait, peut-être une forme d'écriture. Et il a photographié le tout et il a envoyé les images à un archéologue local qui, oh, a eu toute une surprise lui aussi. Parce qu'il a rapidement identifié la pierre comme étant gravée de symboles de ce qu'on appelle un système qui porte le nom de Ogam, qui est un type d'alphabet, mais fait à base de lignes, qui était utilisé en Irlande au Moyen-Âge, donc il y a environ 1600 ans. Et c'était un alphabet qui était quand même assez courant avant l'utilisation du vellum, les manuscrits et tout ça en Irlande. Et la pierre, ben, c'est un support durable, donc ça a souvent été un support d'écriture de choix avant qu'on arrive au manuscrit. Et ben, c'est sûr que le géographe, lui, a donné la pierre à un musée local parce qu'il va y avoir quand même plus d'analyses qui vont être réalisées et elle va éventuellement être exposée. Mais donc, c'est un objet vraiment rare, surtout dans un jardin d'une résidence. Les histoires déplorables de pillage sur les sites archéologiques au Pérou, ben là, sont nombreuses. Si vous me connaissez bien, j'en parle régulièrement à la radio, un petit peu partout. Je suis ces nouvelles-là depuis très, très longtemps. Mais cette fois-ci, une de ces histoires-là se termine quand même sur une note positive. Alors, il faut aussi en parler. Il y a un citoyen, en fait, là, dans les dernières semaines, qui a alerté les autorités du ministère de la Culture du Pérou parce que là, il avait observé des gens là, qui semblaient être en train de piller un site archéologique parce qu'il les voyait sortir des objets, les apporter avec eux. eux. Alors là, ils disaient, s'ils sortent des objets, c'est que c'est pas un site qui est encore fouillé, ou peut-être que, bon, ils ont outrepassé, en fait, un site archéologique en cours, alors il n'a pas pris de chance, il a tout de suite alerté les autorités, ce qui est une bonne chose, parce que ça ne se fait pas toujours. Et très rapidement, en fait, les archéologues sont arrivés là, dans la région de Pampa Libre, on est au nord de la capitale, qui est Lima, et l'espoir, ben, c'était d'arrêter le pillage en cours et de sauver un site archéologique qui leur semblait inconnu. Donc, d'après, en fait, les indications du citoyen, les archéologues ont dit « Oups, non, on ne fouille pas là présentement. Alors, qu'est-ce qui est là? » Et lorsqu'ils sont arrivés sur place, ben, les pilleurs s'étaient sauvés. Et là, ils avaient laissé là, sur place plusieurs jarres en céramique dans, pour certaines, malheureusement, un très mauvais état parce que, bon, ils les ont manipulés rapidement, sans précaution, parce que le but, c'est de sortir les objets, essayer d'en vendre le plus possible sur le marché noir. Ou des fois, ils ont déjà des commandes, en fait, de collectionneurs privés un peu partout dans le monde qui ont, il faut le dire, un grand intérêt là, pour les objets préhispaniques. Ils peuvent être en Russie, au Japon, aux États-Unis, où vous voulez. Alors, les archéologues ont au moins arrêté le pillage du site, ont pu le sécuriser, et les archéologues ont commencé à analyser, en fait, très rapidement, en fait, là, les poteries et les jarres qui étaient sur place. Ils ont été quand même assez surpris. Ils les ont rapidement datées d'environ 600 ans, et par leur style très particulier, même si plusieurs étaient endommagés, ils ont été capables de les associer à une culture préhispanique qu'on connaît assez mal, outre par sa poterie, qui est celle des chancés. C'est une culture qui a occupé là, cette région au nord de Lima entre les années 1100-1450 de notre ère, donc une période quand même où ça bougeait beaucoup, il y a beaucoup de gens. On va approcher lentement mais sûrement des débuts de l'Empire Inca quand eux terminent un petit peu leur histoire culturelle, mais on les connaît quand même assez mal. Alors là, on a peut-être un site qui, au-delà de poterie, pourrait nous fournir d'autres informations. Alors, il va être fouillé et on espère en apprendre davantage sur cette culture. Alors, une triste histoire de pillage, certes, mais qui a été arrêtée à temps et qui pourrait nous apporter ben, plein d'informations historiques, alors on l'espère. Le nom d'Alexandre le Grand, vous savez que je l'aime bien, celui-là, était de retour dans l'actualité archéologique au mois de mai, mais cette fois-ci, en association avec des bains. Et oui, et vous avez peut-être vu passer la nouvelle, parce qu'aussitôt que le nom d'Alexandre le Grand est associé à quelque chose, ça circule plus rapidement, je vous dirais, là, sur les différents réseaux via Google, etc., parce que ça vend, hein, et donc les clics sont là. Mais c'est une vraie découverte, par contre. Les archéologues grecs fouillent depuis près de 16 ans les vestiges d'un de ces palais qui situé dans le village de Vergina, dans le nord de la Grèce, qui est le palais d'Aiai. Et ce mois-ci, ben là, ils ont découvert des bains dans les vestiges. Ils ont annoncé, en fait, la découverte dans un épisode de télévision d'une série documentaire britannique là, qui est très, très populaire avec, en fait, l'historienne Bethany Hughes. Donc, la série s'appelle Bethany Hughes Treasures of the World. Et c'est dans l'épisode diffusé le 11 mai sur Channel 4 au Royaume-Uni là, qu'ils ont annoncé la découverte de bains qui, selon toute vraisemblance, là, ont été utilisés par Alexandre le Grand très probablement par lui et ses amis d'enfance avant qu'il parte pour son grand voyage. Donc, on peut penser à Héphaïstion, Ptolémée. Les archéologues ont aussi dégagé une palestre, donc un lieu d'entraînement, en fait. On peut parler comme d'un gymnase, là où on s'entraîne physiquement, où Alexandre et ses hommes ont probablement aussi fait leurs entraînements physiques toujours avant ce départ pour leur long voyage de conquête. Alors, on va probablement avoir encore d'autres objets, d'autres images aussi de ces fouilles archéologiques-là là, qui vont commencer à sortir peut-être dans les prochains mois. Alors, à suivre! Si on va maintenant en Belgique, là, il y avait des travaux de restauration. En fait, ce sont des travaux de restauration en cours qui ont mené à une découverte quand même assez étonnante parce qu'on a dégagé trois bunkers quand même en assez bon état qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, ils sont presque intacts et ça a un peu surpris parce que généralement, bon, ça a été en grande partie détruit et tout ça. Et ça s'est fait en fait dans le cadre de travaux de restauration des dunes d'une ville flamande qui est située sur les rives de la mer du Nord. Et c'est là qu'on a dégagé en fait là, des systèmes de défense côtière qu'on a pu dater assez facilement là, grâce aux archives et tout ça de 1942-1944. On sait que ça a été construit par l'armée allemande à l'époque et ça avait été érigé là, pour empêcher le plus possible le débarquement des Alliés au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on a trois bunkers en béton armé et en acier qui se trouvent plus précisément sur les dunes de Heijs-Willemspark. On est sur la côte belge, mais près de la frontière avec les Pays-Bas. Alors, pourquoi sont-ils encore là? Parce que généralement, là, le reste des vestiges de cette époque-là, ben, ça a été détruit. On a essayé d'oublier oublié, en fait, cette partie de l'histoire. Mais là, c'est qu'ils étaient trop massifs et il semble qu'on ait simplement décidé à l'époque de les enterrer puis de les oublier après la guerre, alors qu'effectivement, là, pour d'autres ouvrages défensifs qui sont moins imposants, bien ça, ça avait été entièrement détruit. Alors, c'est comme un pan de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale qui va maintenant pouvoir être préservé et qu'on va pouvoir peut-être mieux expliquer aussi, utiliser pour l'interprétation de la Deuxième Guerre mondiale pour cette région-là. Donc, c'est quand même très, très intéressant et assez rare, il faut le dire. Et là, on va s'en aller sur l'île de Pâques. Et pour une nouvelle qui est plus ou moins, en fait, agréable à entendre, je vais vous le dire, ça chagrine, en fait, parce qu'on aime beaucoup les moailles de l'île de Pâques. Mais là, ben voilà, les changements climatiques, ben ça affecte de plus en plus les monuments historiques, les sites archéologiques dans le monde. Je vous en parle régulièrement. Et là, ben les célèbres moailles de l'île de Pâques, ben sont les nouvelles victimes. Ces colosses qui sont sculptés quand même la pierre volcanique, ben là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on commence à voir des traits disparaître parce que la pluie très forte, des incendies sur l'île aussi ont commencé à les dégrader. Alors, la pluie va éroder la pierre, donc les traits distinctifs des statues au niveau des yeux, du nez, etc., ben c'est en train de s'éroder, littéralement. Et les incendies qui sont de plus en plus fréquents parce qu'il y a des orages violents, ben eux, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça amène, on va dire, de la suie. La suie aussi va pénétrer très rapidement cette pierre-là. Donc là, les moailles noircissent, fait qu'on voit encore moins bien les traits sur les statues. Alors, c'est quand même pas évident, mais sachez qu'il y a un projet en cours qui vise à nettoyer et restaurer le plus de moailles possible. Mais là, ils ont alerté, en fait, un petit peu les gens qui s'intéressent à l'île de Pâques en disant il y a vraiment une intensification des phénomènes climatiques violents et là, on est en train de voir que nos efforts, serviront peut-être à rien si ça continue. Parce que si la pluie, si on ne fait rien pour les protéger, même si on les nettoie, même si on essaie de vraiment les remettre en état, bien, si à un moment donné, ça s'érode, bien, tout ce qui a été sculpté, bien, ça, on ne peut pas le refaire. Alors, c'est une histoire à suivre et espérons-le là, qu'il n'aura pas de triste fin pour un important patrimoine de l'humanité. Pour terminer, les équipes du CNRS ont aussi fait une annonce qui est intéressante en mai, en lien avec un des plus célèbres pharaons d'Égypte, Ramsès II. Frédéric Perraudeau, qui est un égyptologue au laboratoire Orient et Méditerranée, a analysé un fragment de sarcophage non identifié et il a pu l'associer au sarcophage de Ramsès II. Enfin, il faut dire qu'il ne reste que des morceaux du sarcophage d'origine qui se trouvaient dans le tombeau du pharaon dans la vallée des rois, puis qui avait été pillé là, à la fin du Nouvel Empire et possiblement fracassé par des pierres à l'époque, un peu réutilisées. On n'était pas trop certain, en fait, de tout ce qui était arrivé avec ce sarcophage-là, bien qu'on ait la momie de Ramsès II, mais qu'elle était cachée dans la cache près du temple de Deir el-Bahari avec toutes les autres momies royales. Et en fait, le fragment de sarcophage qui a été utilisé avait été découvert par un archéologue égyptien qui s'appelle Eman Damrani et il l'a découvert en 2009 dans le sol d'un monastère copte de la région d'Abydos où il y avait des fouilles et là il s'est associé à un collègue américain qui s'appelle Kevin Kai et ils ont publié en 2017 les résultats de l'examen des textes, du décor de ce gros fragment et ils sont arrivés à la conclusion là, que c'était un sarcophage qui avait été utilisé plusieurs fois et de ce qu'il voyait des hiéroglyphes dessus, ben, il avait identifié un grand prêtre de la 21e dynastie qui s'appelait Menkheperre. Et on ignorait en fait qui était le propriétaire d'origine du sarcophage qui semble avoir été réutilisé, mais d'après les hiéroglyphes, on avait l'impression que c'était au moins un prince. Est-ce qu'on avait peut-être même un pharaon? C'était inconnu. Et c'est comme ça en fait que l'égyptologue français a étudié le fragment de granit qui est gravé puis décoré, là, qui est quand même assez long. Là. On parle à peu près 1,70 mètres de long. Fait que c'est vraiment tout un côté en fait de sarcophage pour à peu près 8 cm d'épaisseur. Et quand il a vu l'article, en fait, il a fait « Oh, d'après les hiéroglyphes et tout ça, il dit, j'aimerais ça avoir plus d'images, plus de photos, ce qu'on lui a fourni, parce que je pense que je vais peut-être pouvoir identifier le propriétaire. » Et là, ben, il va analyser les cartouches. Le cartouche, c'est en fait cette espèce de boucle qui entoure généralement le nom d'un pharaon. Et lui, il en est venu à la conclusion là, que le roi en question, c'était pas un prince, c'était un roi, et c'était bel et bien Ramsès II, le premier propriétaire de ce sarcophage, qui effectivement été réutilisé par la suite. Alors, comme quoi les analyses de fragments de pierre peuvent nous éclairer des fois sur des pans de l'histoire ancienne à des moments où on ne s'y attend pas. Si vous souhaitez lire davantage sur ces actualités, comme toujours, n'hésitez pas à utiliser les mots-clés de l'introduction qui devraient vous faciliter la tâche pour trouver des articles sur ces sujets. Je m'arrange pour ça. Et vous pouvez aussi suivre mes actualités quotidiennes toujours sur mes comptes Facebook Historiophile et Evelyne Ferron, historienne, de même que sur mon compte X. Passons maintenant à notre rubrique à la loupe. Dans cette partie du balado, nous approfondissons toujours nos connaissances sur un sujet au cœur de l'actualité. Et ce mois-ci, intéressons-nous à la complexe et fascinante histoire du site archéologique d'Angkor au Cambodge, où deux découvertes archéologiques assez intéressantes ont été réalisées en avril et en mai. En avril, les archéologues dévoilaient en effet une étonnante et magnifique sculpture, je dois le dire, de tortue. Alors ça, c'est assez étonnant, qui a été mise au jour au temple de Bayon. Et en mai, eh bien là, on a dévoilé une imposante tête de statue de Bouddha au temple d'Angkor Thom, qui est quand même un site majeur. Alors pourquoi ce qui semble être de petites découvertes sont-elles importantes? Eh bien, à chaque fouille, vraiment à chaque fouille, on comprend davantage l'ampleur des sites et de plus en plus, qu'est-ce qui se passait du côté de la vie sociale, économique et religieuse qui a caractérisé cet endroit fascinant. Alors, on y va ensemble? Parce que la cité d'Angkor et surtout le gigantesque et magnifique temple d'Angkor Wat ont pu être connus, fouillés et graduellement restaurés lorsqu'un explorateur et naturaliste français du nom d'Henri Alexandre Mouhot en a dégagé les vestiges en pleine jungle du Cambodge en 1860. Il était allé là après avoir lu un livre qui l'avait intéressé sur la faune et la flore de l'Indochine. Et même si le site en tant que tel était connu des populations locales et même des missionnaires et des explorateurs portugais depuis à peu près le 16e siècle, c'est après la publication là, de son livre et de ses esquisses à titre posthume qui s'appelle « Voyage dans les royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos et autres parties centrales de l'Indochine » qu'on a vraiment pu réaliser en fait l'ampleur de ce qui était un vaste site archéologique. Et ça, ça avait été publié sous forme de feuilleton dans la revue Le Tour du Monde en 1863, où l'explorateur le faisait un rapport quand même très détaillé là, de ses 3 semaines d'exploration et d'observation. Et là, ben, ce journal de voyage publié en épisode enflammait l'imagination des lecteurs. Et là, ça y est, deuxième moitié du 19e siècle, les explorateurs, les photographes, les archéologues occidentaux vont commencer à s'intéresser à ces ruines-là et surtout à essayer d'en comprendre l'histoire. Mais qui a pu, dans un climat très chaud et humide de la jungle, réaliser des monuments aussi gigantesques et aussi beaux aussi, parce qu'on voit bien que c'est un travail de longue haleine. Et la pierre raconte un peu l'histoire architecturale et religieuse, mais on n'avait pas vraiment d'informations sur les villes, les villages, le quotidien des gens qui y ont habité. Et ça, ça va commencer lentement, mais sûrement, à se dévoiler à partir de 1994, parce que on va demander à la NASA, en fait, de prendre des photos par satellite pour mieux voir, en fait, encore. C'est pris dans la jungle. Il y a une partie qui est dégagée depuis la deuxième moitié du 19e siècle, mais on se doute qu'on n'a vraiment pas tout dégagé. À quoi ça pourrait ressembler, en fait? Est-ce qu'on est capable de voir du haut des airs? Qu'est-ce qui se trouve, en fait, dans le couvert de la jungle qui est quand même assez dense dans cette région-là? Et déjà, par les photos aériennes en 1994, qui ne sont pas aussi claires que ce qu'on va voir aujourd'hui, ben, on voyait déjà que le site semblait beaucoup plus étendu que ce que l'on croyait. Et là, arrive depuis 2012, cette technologie dont je vous parle souvent parce que c'est probablement ce qui apporte le plus à la discipline archéologique présentement, c'est le fameux LIDAR qui est utilisé depuis 2012 et c'est une technologie qui ne cesse d'être perfectionnée, c'est la télédétection par laser qui nous permet vraiment de passer à travers le couvert de la jungle et voir s'il y a des structures, des monticules et tout ça qui se trouvent à travers. Et là, c'est vraiment venu faire avancer les connaissances et le contexte des fouilles archéologiques sur le site d'Angkor parce que là, à partir de 2016, on va avoir les premiers rapports du LIDAR sur le site et là, on va faire « oh, oh ». Mais c'est tellement plus gros que ce qu'on avait jamais pu imaginer. Sous le couvert de la jungle, on a un site d'à peu près 900 km² autour du site principal qui est déjà dégagé. Et là, on va faire un balayage laser aérien vraiment complet. Et à partir de 2016, là, vous allez avoir beaucoup d'articles qui vont sortir, entre autres dans le Journal of Archaeological Science, où on va commencer là, à montrer en fait l'étendue de l'urbanisation. Donc, c'est pas juste des petits villages ou des vestiges de huttes. Là, on parle vraiment de villes et ça dépasse à peu près toutes les hypothèses qu'on avait pu avoir avant cette époque-là. Ce ne sont pas tant des cités inconnus, mais ce qu'on réalise en fait, c'est que l'ancien empire des Khmer, c'était pas juste le site principal d'Angkor, mais on avait des villes, des villages, des temples qui étaient connectés en fait à la métropole qui était Angkor. Et ce réseau complexe de routes, de canalisations, la grille urbaine, c'est ce que le LIDAR a permis de dévoiler et qui va être fouillé lentement mais sûrement, mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc on est rendu en 2024 et il y a vraiment une mini portion de ça là, qui a été dégagée et qui est fouillée parce qu'il faut y aller lentement. Et quand on n'est pas capable de vraiment pousser les fouilles, ben on ne dégage pas tout de suite le couvert de la jungle parce qu'on pourrait endommager aussi les bâtiments, les exposer aux éléments. Mais néanmoins, là, tous les relevés là, qui sont sortis depuis 2016 ont permis aux archéologues de pouvoir cibler des sites précis et ça accélère quand même des fouilles importantes. On est capable de dire, bon, cet endroit-là, on va le fouiller en premier parce qu'il y a l'air d'avoir quelque chose de gros, d'un peu plus massif, ça nous intéresse, eh bien c'est là qu'on va. Et en même temps, ben, ce qu'on réalise juste par ces images-là, c'est qu'il y a des maisons et non pas juste en fait des temples et tout ça, on a vraiment en fait des villages. Et quand on va commencer à fouiller ça comme il faut, ben là, on va être capable de comprendre plus le quotidien, l'alimentation, etc. Et on a aussi fait des carottages, en fait, depuis sur le site pour mieux comprendre l'habitation, quand est-ce que ça avait commencé à être occupé, mais surtout quand est-ce que ça s'est terminé. Parce qu'on sait qu'Angkor a fini par être abandonné, laissé à la jungle. Mais quand est-ce que ça s'est vraiment fait? Donc, on est allé faire des carottages de quand même quelque chose comme 70-80 cm de profondeur. Et là, on a été capable de voir, en fait, quand l'arrêt de la gestion du sol, donc de l'occupation du sol par les humains, s'est comme arrêté, quand est-ce que la nature a commencé à reprendre ses droits. Et on a fait ça là, dans la cité royale d'Angkor Thom. Et on a réalisé là, que quand la cité d'Angkor Thom a été abandonnée, on était à peu près autour du 15e siècle. Et déjà au 15e siècle, il y a des sections qui, en fait, de ce réseau dont je vous parlais, là, qui entourait le site d'Angkor, Angkor Thom, qui commençait à être envahi par la végétation. Donc, on arrive à la datation d'à peu près le 15e siècle pour un arrêt des habitations dans plusieurs secteurs autour. Et le site principal d'Angkor, que vous connaissez peut-être, la dernière section à avoir été abandonnée au final. Et donc, ça nous amène à parler un petit peu de qui est là? Qui a construit ça? L'Empire des Khmers? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Donc, on va faire un petit retour historique maintenant là, du point de vue de ce qu'on a comme archives qui nous viennent entre autres d'un Chinois, quelqu'un qui venait du royaume de Siam. On a quelques archives comme ça qui nous permettent quand même d'avoir un peu de rapport écrit sur les fameux Khmers qui sont responsables quand même de la construction du site principal qui généralement nous fascine le plus. Alors donc, les chercheurs vont établir une date possible d'abandon 15e siècle, mais les carottages permettent même d'aller assez précis, peut-être 1431. Et ça correspond quand même avec des archives qui parlaient d'une invasion meurtrière des Thaïs dans la région. Alors, on joue à peu près là-dedans là, pour le début de l'abandon là, du vaste site de ce qui est Angkor. Et le problème, par contre, pour vraiment comprendre tout ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de documentation qui, à l'époque, était écrite sur des supports souples. Ça peut être du papier compacté fait de différents résidus végétaux. Ça peut être sur du cuir aussi. Et ça, à cause d'un climat qui est très humide, ben, ça n'a pas survécu autant. Mais on a quand même des inscriptions en ancien cambodgien, en sanskrit même, un peu partout sur les sites fouillés. On a le témoignage quand même plus important, mais qui, il faut le dire, est teinté de préjugés, mais qui est quand même assez exact sur certaines choses, qui nous vient donc de cet ambassadeur chinois qui résidait à Angkor et qui a tenu un journal sur son séjour en 1296. Donc, il s'appelait Zhou Daguan. Les archives, si ça vous intéresse, vous pouvez les consulter en ligne. Là, ça s'appelle « Mémoire sur les coutumes du Cambodge ». On a aussi quelques archives, comme je vous disais, du royaume de Siam. Alors, tout ça nous aide quand même à comprendre un peu, je vous dis bien un peu, la trame historique, politique, sociale, religieuse de cette monarchie, en tout cas, ce qu'a été l'Empire des Khmers et aussi ce qu'on peut savoir sur la construction de la cité d'Angkor, qu'on peut faire remonter à l'an 802, à l'époque du roi Jayavarman II, qui a pris le pouvoir et s'est identifié un petit peu à l'époque comme un dieu roi. Donc ça, grâce aux inscriptions, à tout ce qu'on trouve sur le site, on est capable de faire vraiment commencer l'histoire de cette cité d'Angkor, en tout cas, à partir de 802. Mais les villages et ce qu'il y avait autour devaient exister probablement avant. Et donc, ce roi va faire des conquêtes au fil du temps qui ne sont pas toujours réussis selon les archives chinoises et thaïlandaises. Ses successeurs aussi vont continuer à faire des conquêtes, à grandir le site. Mais donc, c'est ce qui va faire en sorte que les Khmers vont en venir à développer un vaste empire qui va s'étendre au Cambodge, mais aussi à une partie de la Thaïlande et du Vietnam, et même ce qui est aujourd'hui le Laos. Donc, c'est devenu très, très gros, en fait, l'empire des Khmers à une époque qui coïncide avec le Moyen-Âge occidental. Et tous les souverains de cet empire-là semblent avoir été considérés comme des dieux vivants. Et une des hypothèses des archéologues, c'est que cette espèce de dévotion peut nous aider à comprendre comment autant de paysans ont pu accepter d'aider à construire, à grandir et gérer une cité aussi vaste en pleine jungle. Alors, il faut vraiment croire que vous travaillez pour quelqu'un de plus grand que vous, quelqu'un qui a un pouvoir, quelqu'un qui peut vous aider aussi parce qu'il a quelque chose de plus que vous, là, vous allez peut-être avoir la motivation pour aider à construire quelque chose comme ça. Alors, chacun des rois, en fait, de cet empire Khmer là, va se faire construire un monument à sa gloire. Donc, on en a un petit peu partout sur le site. On a des sanctuaires aussi qui vont permettre de célébrer à la fois la religion, l'art et le pouvoir. C'est comme un mélange des trois, souvent, sur le site. Et ça explique aussi l'importance des petits temples qu'on trouve partout, parce qu'on a, oui, les temples, les principaux, mais on a des tout petits temples, quand même assez simples, et on réalise que c'est un petit peu comme... un peu pour les églises en Occident, c'est comme s'il y avait un petit temple pour chaque village pour que la population puisse vénérer le souverain au pouvoir comme une divinité et s'assurer en fait qu'il soit appuyé par les puissances divines pour continuer son travail de protéger la population. Et là, les fouilles de la dernière décennie surtout ont permis de révéler un petit peu aussi le quotidien des paysans. On s'est rendu compte de l'importance des rizières, le riz est vraiment l'aliment de base. Et pour pouvoir cultiver de plus en plus de riz parce que encore va se développer jusqu'à l'aube du 15e siècle, bien c'est sûr qu'il va y avoir une importante déforestation aussi au fil du temps pour répondre aux besoins en riz d'une population qui est toujours croissante. Mais on sait aussi que les gens cultivaient une variété de légumes, des pomelos aussi comme fruits, qui cuisaient leur nourriture souvent dans des pots en terre cuite directement au-dessus du feu. Et l'ambassadeur chinois, le Zhu Daguan, nous parle de la chaleur aussi, qui obligeait les gens à se baigner régulièrement. Donc, construire une cité comme ça... si vous vous demandez, oh mon Dieu, est-ce qu'il faisait aussi chaud et humide qu'aujourd'hui? La réponse, c'est un peu oui. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les gens avaient tous accès à un petit étang pour se baigner, se laver. Ça explique un petit peu comment les villages sont placés. L'accès à l'eau qui est terriblement important. Et de ce qu'on comprend aussi par les archives écrites davantage, on sait que les femmes ont quand même une place importante dans la société d'Angkor parce qu'elles vont s'occuper beaucoup du commerce. Elles vont vendre les produits On sait qu'il y a des échanges avec la Chine, c'est pas pour rien, en fait, qu'il y a un ambassadeur qui va être sur place à la fin du 13e siècle. Et on sait aussi que le roi avait un harem et que les ambassadeurs chinois avaient un intérêt, mettons, pour les femmes d'Angkor, qui étaient, de ce qu'on en sait, très, très belles. Et si on se fie à Zhu Daguan, ces femmes-là avaient une sexualité qui était quand même assez active. Et... il va jusqu'à dire là, que les femmes étaient prêtes à avoir des relations sexuelles 2 jours après la naissance d'enfants. Donc ça, évidemment, ça ne se démontre pas. Il faut quand même faire attention quand on a un témoignage comme ça de quelqu'un de l'extérieur qui n'a peut-être pas, là, je dirais, une volonté nécessairement d'objectivité historique ici. Là, on est plus dans la chronique et même dans le potin à l'occasion. L'apogée, ben, quand même, de ce qu'on peut appeler la civilisation des Khmers au Cambodge va se faire à peu près là, au 12e siècle sous le roi Suryavarman II. Donc, des fois, pardon, mais prononcer ces noms-là, c'est un peu compliqué, mais Suryavarman II est vraiment celui qui a laissé peut-être le plus de traces. Et on voit bien qu'il est à l'origine des débuts vraiment de la construction des grands temples d'Angkor, surtout le fameux temple d'Angkor Wat, qui est le temple de l'État. C'est le gros temple qui occupe une surface de 1500 mètres sur 1300 mètres. Vous pouvez aller voir des images sur Internet et faire « Ah oui, c'est ça que j'avais en tête quand je pensais à Angkor. » Il en est un petit peu, je dirais, le porte-étendard encore aujourd'hui. Et ce temple principal-là était sur une montagne avec 3 espèces de galeries rectangulaires et tout ça est décoré de très nombreux bas-reliefs qui vont illustrer les Védas parce qu'à l'origine, c'est là où c'est intéressant quand même, à l'origine, à cette époque-là, c'est plus un temple hindou. Et on a vraiment là, les 4 tours en forme de fleurs de lotus qui semblent représenter le mont Meru des récits mythologiques hindous et plus tard bouddhistes aussi. Et on est capable d'identifier qu'il devait y avoir à un moment donné jusqu'à 12 000 personnes qui auraient pu loger sur ce site-là, des prêtres, des danseuses, les gens qui, les laïcs qui vont s'occuper juste de l'entretien de tout ça, de la cuisine, etc. Et donc, ce site-là en particulier fait partie là, de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Et donc, si on continue un petit peu notre parcours sur ce qu'on a comme information un peu historique, revenons toujours à notre chroniqueur chinois, Zhu Daguan, qui parle aussi d'une importante population qui nous avait toujours semblé un peu exagérée, là, jusqu'à temps que les analyses LIDAR nous montrent que, caché dans la jungle, il y a tout un réseau de villes et de villages associés à cette métropole. Donc, le site actuel d'Angkor, ou ce qu'on appelle Angkor Thom, c'est vraiment la capitale, la métropole, mais il y a tout un univers de villes et de villages autour. Maintenant, on le sait. Et On va souvent faire une comparaison là, pour aider les gens à comprendre. En étendue, ça ressemble à peu près à la ville de Londres. Donc ça, c'est le site vraiment principal que vous connaissez le plus. Et on estime qu'autour du 12e siècle, tournant 13e siècle, ça, il y a peut-être eu à peu près 1 million d'habitants dans ce secteur-là, ce qui... Si c'est exact, c'est difficile quand même à démontrer hors de tout doute pour l'instant, du moins, ce serait une des plus grosses villes du monde à l'époque, là. Et on a une inscription en sanskrit qui parle de 80 000 personnes, 3 000 villages, qui fournissaient ben, les biens, les efforts pour garder le temple en bon état, garder la métropole en bon état. Et là, avec les fouilles, les relevés, l'idar, ben là, on réalise aussi que il y a tout un travail d'urbanisme aussi autour, parce que tout est lié par des routes. Et on réalise surtout que tout est lié à l'eau. Donc, l'importance dans un lieu aussi chaud de pouvoir se baigner, d'avoir de l'eau potable, il y a tout un réseau hydraulique en fait. Et l'eau, pourquoi c'est aussi majeur? Ben, c'est aussi pour les rizières. Donc, le riz peut pousser en dehors de l'eau, mais dans l'eau, ben, il n'y a pas de mauvaises herbes. Ça donne quand même des meilleures cultures. Alors, si jamais on a plusieurs mois sans pluie ou si on a des moussons, il faut être capable de gérer cette eau-là. Donc, les grandes villes sont souvent situées près des lacs, mais on va avoir des canaux, des réservoirs pour contrôler les crues. Donc, si on est en période de mousson, et on va avoir aussi des canaux d'irrigation pour les périodes plus sèches. On va être capable d'envoyer de l'eau dans les rizières pour s'assurer qu'on ne manque pas de cet aliment de base. Et on va même avoir une espèce de réseau de débordement, de dérivation là, qui vont transporter les eaux excédentaires au lac Tonle Sap plus au sud. Alors, c'est quand même beaucoup plus moderne et organisé que ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et ça, quand même, c'est en train de changer notre perception de ce qu'a été encore. Et donc, pour ce qui est un peu l'équivalent, l'époque du Moyen-Âge occidental, ben là, on peut dire que du côté de la il n'y a pas juste la Chine, il y avait d'autres régions où on avait des cités très bien organisées. On peut vraiment parler d'urbanisme planifié. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et on sait que les Khmers, au début, étaient hindous. Donc, ça explique l'importance d'architecture pour les temples, même les plus petits. Mais là, petit changement. Lorsqu'on arrive au 13e siècle, et là, ça va avec la découverte d'une tête de statue là, qu'on a réalisée au mois de mai. Donc, au cours du 13e siècle, les rois et une partie de la population vont commencer à se convertir au bouddhisme, Theravada. Et ça, ben, ça va amener des changements dans l'architecture quand même, surtout la nouvelle architecture, donc ce qui est plus récent, en fait, sur le site d'Angkor Thom en particulier. Et là, c'est moins décoré, c'est un petit peu plus sobre et c'est axé sur les Bouddhas du point de vue des sculptures. Et encore est aujourd'hui toujours considéré comme un sanctuaire bouddhiste. Et là, ben, avec des sites comme ça où vous avez peut-être eu 1 million d'habitants, ben, pourquoi et comment on arrive à un abandon au 15e siècle? Alors là, graduellement, l'archéologie est en train de nous donner quand même des informations, la géoarchéologie aussi. On réalise qu'il y a eu des sécheresses qui ont été suivies de moussons très abondantes. Donc là, on va parler de changement climatique d'une certaine façon qui amène des épisodes, en tout cas climatiques, qui sont intenses, des grandes sécheresses ou des trop grandes moussons. Et ça, ben, ça a affecté la productivité agricole et ça a déstabilisé cette espèce de réseau hydraulique qui était très sophistiqué, mais qui n'a pas été pensé pour résister à des changements de débit d'eau aussi importants que ce qu'ils vont connaître là, quand on arrive au 15e siècle. Ajoutons à ça le conflit avec les Thaïs. Je vous disais que l'Empire Khmer va toucher la Thaïlande. Au 15e siècle, dont cette fameuse invasion violente là, pour laquelle on a des traces des archives qui a lieu en 1431. Et ça, de ce qu'on en sait, ça a vraiment affaibli l'élite politique d'Angkor. Ajouter à ça la déforestation pour les rizières, ça fait en sorte que là, ça devient très, très chaud. Ça accentue en fait les problèmes de sécheresse. Alors les gens vont commencer à migrer vers l'est, donc le secteur de la capitale actuelle, Phnom Penh, où l'histoire des Khmers va se poursuivre, mais ça va être une histoire complètement différente que celle du site d'Angkor. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a des découvertes archéologiques, même si c'est des sculptures comme une tortue, l'importance de l'eau, des symboles et tout ça, ben ça nous aide à comprendre davantage qui est là, comment ils vivent, comment se vivait le quotidien et ça, ben, c'est toujours à suivre. Alors, je vous souhaite une bonne fin du mois de juin. Je vous retrouve vers la fin du mois et juste pour vous dire que Historio Info va avoir de plus en plus d'épisodes spéciaux en plus de ces épisodes on va dire plus traditionnels parce que là, je vais avoir plus de temps. Les livres sont sortis. Je vais pouvoir faire en fait le plus des formats chroniques comme ça m'a été demandé. Donc, ça s'en vient lentement mais sûrement. Alors, je vous retrouve à la fin du mois de juin.